Bonjour, je vous propose le commentaire de ce texte tiré du livre de Michée au chapitre 7, versets 7 à 20. En voici la lecture. Je guette le Seigneur, j'espère en Dieu mon Sauveur, il m'écoutera, mon Dieu. Ne ris pas de moi, ô mon ennemi. Si je suis troublé, je me relève. Si je demeure dans les ténèbres, le Seigneur est ma lumière. L'indignation du Seigneur, je dois la supporter, car j'ai péché contre lui. Jusqu'à ce qu'il juge ma cause et rétablisse mon droit. Il me fera sortir à la lumière, et je contemplerai son œuvre de justice. Elle verra bien mon ennemi, elle en sera couverte de honte, elle qui me disait: Où est-il le Seigneur ton Dieu? Mes yeux la contempleront, elle va être piétinée comme la boue des rues. Le jour de rebâtir tes remparts, ce jour-là, on repoussera tes frontières. Ce jour-là, on viendra vers toi depuis Assur jusqu'à l'Égypte. Depuis l'Égypte jusqu'au fleuve, d'une mer à l'autre, d'une montagne à l'autre. La terre deviendra un désert à cause de ses habitants. Ce sera le fruit de leur conduite. Fais paître ton peuple sous ta houlette, le troupeau, ton héritage qui demeure solitaire dans un maquis au milieu des vergers. Qu'ils pâturent en Bashan et Galaad, comme au jour d'autrefois, comme au jour où tu sortis du pays d'Égypte, je lui ferai voir des merveilles. Les nations regarderont et seront couvertes de honte, en dépit de toute leur puissance. Elles mettront la main sur la bouche, leurs oreilles seront assourdies, elles lécheront la poussière comme le serpent, comme les bêtes qui rampent sur la terre. Tremblantes, elles sortiront de leur forteresse vers le Seigneur notre Dieu. Elles seront terrifiées, elles auront peur de toi. À quel Dieu te comparer, toi qui ôtes le péché, toi qui passes sur les terres, sur les révoltes? Par amour du reste, son héritage, loin de s'obstiner dans sa colère, lui, il se plaît à faire grâce. De nouveau, il lui manifestera sa miséricorde, il piétinera nos péchés. Tu jetteras toutes leurs fautes au fond de la mer, tu accorderas à Jacob ta fidélité et ta grâce à Abraham. C'est ce que tu as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est un petit peu le contexte historique dans lequel a été écrit ce texte. Le prophète Michée est un prophète qui a vécu dans le royaume du sud d'Israël, après que Israël se soit divisé en deux, royaume du nord et royaume du sud, après le règne du roi Salomon. Et le royaume du nord, en 722 à peu près, avant Jésus-Christ, est tombé entre les mains du royaume d'Assur, dont on parle dans ce texte, les Assyriens. Et Israël, le royaume du Nord, n'existe plus. Les habitants d'Israël ont été déportés. Il reste encore le royaume du Sud, Juda, celui qui a été fidèle à David, à Salomon et à ses descendants. Et dans ce royaume du Sud, deux prophètes émergent à cette époque qui sont Isaïe et Michée. Et il faut savoir que Michée et Isaïe ont connu aussi la menace assyrienne, puisque Ézéchias, le roi qui était à la tête de Juda à l'époque de Michée, a dû faire face à un siège justement des Assyriens, dont il s'est sorti miraculeusement grâce à une intervention de Dieu. Vous pouvez lire tout ça dans le livre des Rois. Et ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est important, c'est que ces oracles, ces prophéties faites par Michée, interviennent environ 150 ans avant effectivement la chute aussi du royaume de Juda, mais qui là ne chutera pas entre les mains des Assyriens, mais des Babyloniens. Alors effectivement, quand on sait tout ce contexte historique, on comprend mieux le texte de Michée qui promet une épreuve. Et après l'épreuve, un renouveau encore plus grand et plus beau que ce qu'était Juda. Alors, c'est déjà, on peut penser au siège d'Ézéchias, où les Assyriens avaient visiblement toute raison de vaincre Jérusalem qu'ils assiégeaient, et miraculeusement, le Seigneur intervient et le siège est levé. On peut aussi penser, avec 150 ans d'avance, que Michée voit le péché de Juda qui le conduira à la déportation à Babylone, mais qu'après il y aura le retour de l'exil, car rien n'empêche un prophète de voir la réalité 150 ans à l'avance, puisqu'il est inspiré par Dieu. Donc de ça, on peut, pour notre vie quotidienne, en tirer cette leçon, que malgré les difficultés, il y a le bout du tunnel, il y a la lumière, et qu'un mal peut générer un plus grand bien. C'est ce que nous allons voir en détail en lisant ce texte de façon linéaire. Alors d'abord, je guette le Seigneur, j'espère en Dieu mon Sauveur, il m'écoutera mon Dieu. Ce qui doit distinguer un chrétien d'autres personnes, c'est que nous, dans les difficultés, parce que nous aurons des difficultés, parce que nous sommes pécheurs, et puis parce que nous sommes dans un monde pécheur, et que Jésus nous a laissés dans le monde, même si nous ne sommes pas du monde, donc nous devons aussi assumer le péché des autres, c'est-à-dire nous devons respecter tout ce qui fait que le monde librement refuse Dieu, et ça explique pourquoi nous connaîtrons les difficultés, que chrétien n'est pas une assurance contre les problèmes, mais que nous aurons des difficultés du fait que d'autres personnes librement refusent Dieu et que cela déteint sur notre vie, cela influence notre vie, les circonstances qui vont entourer notre vie, et puis il y a notre propre péché, malgré notre conversion, qui est là. Nous sommes toujours pécheurs jusqu'à ce que nous allions rejoindre le Seigneur après notre mort. C'est ce que Paul appelle la loi ou la chair. Nous en sommes encore dépendants. Mais malgré les difficultés, contrairement aux autres, notre force ne doit pas être dans des solutions qui n'ont pas à voir avec Dieu. Beaucoup de gens dans les difficultés se tournent vers toutes sortes d'idoles. Parfois même, ils s'idolâtrent eux-mêmes et leur capacité à sortir de leurs problèmes. Nous devons avoir l'humilité de nous tourner vers Dieu, de guetter son regard. Et nous savons que cette attitude de nous tourner vers Dieu est une promesse qu'il nous aidera, parce que le texte dit « Il m'écoutera, mon Dieu ». Nous devons nous tourner vers Dieu, même quand nous avons l'impression un peu comme Jésus dans la barque au milieu de la tempête, qu'il dort ou qu'il est silencieux, nous devons nous souvenir qu'il nous écoutera. Et qu'il faut parfois du temps pour avoir une réponse audible de Dieu, parce qu'il faut à Dieu le temps de travailler notre cœur et le cœur de nos frères librement, et respectueux de toutes les réticences qui peuvent se faire jour et obstacle à sa grâce. C'est la façon dont Dieu travaille. C'est pour ça que le Christ lui-même a, comment dire, accepté la croix. C'est par la croix qu'il sauve l'humanité. Nous-mêmes, nous devons accepter les limites que Dieu accepte, c'est-à-dire la liberté qu'il respecte dans le cœur des autres et nos propres réticences. Donc Dieu accepte de respecter toutes ces libertés mal utilisées, mais en les acceptant, il les transforme de l'intérieur, ce qui est plus long, mais beaucoup plus efficace. Donc souvenons-nous de tout ça quand nous avons des problèmes. Cela nous aidera à comprendre que le Seigneur travaille, certes lentement, parce qu'il le veut, parce qu'il respecte amoureusement notre liberté, mais ô combien plus efficacement, comme nous allons le voir dans la suite du texte. Ne ris pas de moi, ô mon ennemi. Si je suis tombé, je me relève. Si je demeure dans les ténèbres, le Seigneur est ma lumière. Dans notre péché, dans nos problèmes, nous devons toujours avoir les yeux fixés sur le Seigneur. Il est notre lumière. Il va nous guider pour que nous traversions nos difficultés. Et souvenons-nous, si nous sommes tombés, nous nous relèverons parce que le Seigneur nous tend la main. Comme Pierre qui marche sur les eaux, pour rejoindre le Christ et qui coule parce qu'il quitte du regard le Christ, et dès qu'il cesse de regarder le Christ, il tombe. Alors il dit au Seigneur, au secours, sors-moi de là, en gros, et le Seigneur lui tend la main et le sort de l'eau. Et bien nous-mêmes, nous devons être confiants en l'amour de notre Seigneur. Il est notre lumière, il nous relèvera. Alors l'indignation du Seigneur, je dois la supporter car j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il juge ma cause et rétablisse mon droit. C'est un verset clé que nous devons vraiment comprendre, parce qu'il nous révèle quelque chose du cœur de Dieu. Trop souvent, nous pensons que le pardon, c'est l'oubli, notamment de la part de Dieu. Le pardon de Dieu n'est pas l'oubli. Le pardon de Dieu est éducatif. Dieu nous pardonne, mais c'est pour que nous soyons plus grands, pour que justement ce qui nous a conduit au péché ne nous reconduise plus au péché. Donc il faut une éducation pour que ce péché soit vaincu. C'est ça le pardon de Dieu. C'est pour ça que le texte dit « Donc, jusqu'à ce qu'il juge ma cause et rétablisse mon droit. » Et après, le texte continue, il me fera sortir à la lumière et je contemplerai son œuvre de justice. La justice dans la Bible, c'est être en phase avec Dieu. Nous devons accepter quand nous péchons de, comment dire, de recevoir la leçon du Seigneur, qui est son pardon, pour que petit à petit, il nous éduque à ne plus pécher, à ne plus tomber dans ces péchés qui nous éloignent de lui, pour que nous soyons, après son pardon, après que la grâce ait achevé de travailler notre cœur, après que son pardon ait été effectivement, si j'ose dire, efficace, eh bien nous devons accepter donc de nous laisser éduquer pour que justement nous soyons plus grands, plus justes, plus près de Dieu. C'est ça le pardon de Dieu. Alors comment faire pour nous laisser éduquer et pleinement donc pardonner? Eh bien, le texte nous dit, l'indignation du Seigneur, je dois la supporter car j'ai péché contre lui. Nous devons accepter docilement la volonté du Seigneur et les conséquences de notre péché. Plus nous accepterons facilement les conséquences de notre péché, qui forcément sont négatives et nous éloignent de Dieu et amènent un certain malheur dans nos vies, plus vite le Seigneur pourra nous pardonner. Il nous a déjà pardonné. Et plus vite le Seigneur pourra manifester pleinement son pardon qui nous rendra plus forts justement par rapport à ce péché qui nous faisait tomber. C'est pour ça que le texte dit « jusqu'à ce qu'il juge ma cause et rétablisse mon droit ». Alors, de même, pensons à nos frères. Ce qu'ils éloignent de Dieu, c'est leur péché. Alors nous prions pour eux, nous voyons, c'est facile, plus facile de voir le péché des autres que notre propre péché. Et souvent cela nous porte au jugement. Mais au contraire, quand nous demandons à Dieu de pardonner nos frères, et que cela soit aussi un appel à ce qu'ils se convertissent, se tournent vers Dieu. Parce que le pardon de Dieu agit aussi en nos frères. Et soyons confiants que le Seigneur accepte le comportement de nos frères, il accepte leur réticence, le mauvais usage de leur liberté qui souvent les éloigne de lui, mais c'est pour mieux justement les travailler en profondeur pour que librement un jour ils se tournent vers lui. Parce que ce que nous faisons librement est toujours plus efficace et plus profondément ancré en nous-mêmes. Et bien fort de ça, soyons confiants quand nous prions pour eux que, comment dire, l'exaucement ne vient pas tout de suite, qu'ils sont toujours loin de Dieu malgré notre amour pour eux, nos prières, etc. Eh bien, c'est normal. C'est quelque chose que le Seigneur accepte parce qu'il travaille dans leur cœur tout en respectant leur liberté. Et c'est justement à la mesure de notre prière que nous accordons librement pour nos frères que le Seigneur pourra les pardonner d'autant plus vite, c'est-à-dire leur accorder la grâce pleine du pardon qui est la conversion. Alors, donc elle verra bien mon ennemi, elle en sera couverte de honte, elle qui me disait « Où est-il le Seigneur notre Dieu ?» Mes yeux la contempleront, elle va être piétinée comme la boue des rues. Alors toujours, soyons confiants que dans nos difficultés, qui sont souvent le fruit de nos péchés, ou quand nous voyons nos frères être dans les difficultés parce qu'ils sont dans le péché et ne s'en rendent même pas compte, soyons confiants que si nous prions, si nous sommes dociles à la volonté du Seigneur, eh bien le Seigneur nous donnera le privilège de contempler la défaite pleine et entière de notre ennemi. Ce que le Seigneur nous donne comme arme à nous pour vaincre notre péché, c'est l'humilité et la docilité et bien sûr la prière. Docilité à sa volonté, hein, j'entends bien. Eh bien, si nous sommes humbles, dociles et priants, eh bien le Seigneur pourra nous pardonner avec beaucoup d'efficacité et faire que nous voyons vraiment notre péché piétiné. De même pour nos frères, les armes sont douceur et prière et amour. Si au lieu de forcer les choses ou de les juger d'être cassants, nous prions, nous aimons et nous sommes doux avec eux, eh bien nous pourrons contempler une victoire pleine et entière dans leur cœur parce qu'ils se tourneront vers Dieu. Alors que si nous sommes cassants, etc., eh bien où nous les jugeons, ils sentiront le contre-témoignage de notre vie et ça les éloignera encore plus de Dieu. Le jour de rebâtir tes remparts, ce jour-là on repoussera tes frontières, ce jour-là on viendra vers toi, depuis Assour jusqu'à l'Égypte, depuis l'Égypte jusqu'au fleuve, d'une mer à l'autre, d'une montagne à l'autre, la terre deviendra un désert à cause de ses habitants, ce sera le fruit de leur conduite. Alors, c'est ce que je viens de dire, si nous acceptons la correction, si j'ose dire, ou l'éducation de Dieu qui est notre Père, eh bien, ce ne sera pas simplement le jour de rebâtir les remparts, c'est-à-dire nous ne serons pas simplement reconstruits comme avant, Mais cela ira bien plus loin. Le Seigneur repoussera les frontières, etc., etc. C'est-à-dire que le pardon de Dieu, et c'est sa grande miséricorde, non seulement il nous pardonne et ne nous fait pas grief de nos péchés, mais il utilise son pardon et notre repentance pour nous faire grandir, pour nous rendre plus forts. Eh bien, ça, il faut l'accepter. C'est pour ça qu'il est important d'accepter le pardon de Dieu qui est éducation. Et quand nous subissons les conséquences de notre péché, de dire comme le texte tout à l'heure qui est « J'ai péché contre lui, je dois le supporter ». Si nous avons cette attitude de docilité, alors vraiment, le pardon équivaudra à ce que du bien sorte du mal, à ce que nous soyons encore plus grands. De même pour nos frères, soyons-en convaincus que si nous prions pour eux et les aimons, si nous avons la stratégie du Christ qui est amour et prière, et souffrir pour eux, c'est-à-dire que la souffrance que nous avons de les voir loin de lui ne génère pas le jugement, mais encore plus notre prière et plus d'amour et de compassion, que nous confions vraiment au Seigneur. Eh bien, si nous avons cette attitude, la victoire sera encore plus belle dans le cœur de nos frères. Alors, ici, on peut revenir au contexte historique, hein, Assur jusqu'à l'Égypte, etc. Donc, le prophète promet à Jérusalem un pardon qui ira bien au-delà de ce que Jérusalem imaginait. Alors, notons aussi, la terre deviendra un désert à cause de ses habitants. Ce sera le fruit de leur conduite. Le Seigneur nous pardonne, mais justement, parce que son pardon est éducation, il accepte que nous subissions, dans une certaine mesure, les conséquences de notre péché, pour que vraiment nous n'ayons plus envie de recommencer, pour que nous goûtions l'amertume du fruit de notre péché. Donc c'est ça. Quand nous vraiment nous sommes pleinement conscients de ce que nous avons fait, des dégâts que cela cause, alors nous sommes vraiment mûrs pour nous repentir et humblement accepter la grâce du Seigneur et son pardon. Alors vraiment, nous sommes mûrs pour que les remparts soient rebâtis et que les frontières soient repoussées. De même pour nos frères. Parfois nous sommes surpris que, malgré notre témoignage, que ce soit en parole, en acte, et nos prières, ils semblent s'éloigner encore plus du Seigneur. Mais c'est normal, parce que le Seigneur aussi respecte leur liberté. Et c'est quand les gens auront vraiment conscience pleinement de s'éloigner du Seigneur et des conséquences que ça a dans leur vie, quand ils seront vraiment dans un désert, alors seulement, quand ils se rendront compte du fruit de leur conduite, ils seront mûrs pour librement accepter le Seigneur. Et justement, si dans ces moments-là où nous voyons que, apparemment, nos prières et notre témoignage ne porte pas de fruit dans le cœur de nos frères, et bien justement, redoublons de prière et d'amour, parce que c'est quelque chose qui nous montre que ça avance, que les gens vont petit à petit se rendre compte du désert de leur vie. Fais paître ton peuple sous ta houlette, le troupeau ton héritage qui demeure solitaire dans un maquis au milieu des vergers. Oui, la houlette, donc, acceptons la houlette du Seigneur. Nous sommes parfois submergés par le péché, nous avons l'impression que nous n'y arriverons pas, nous sommes découragés. C'est un petit peu comme si nous étions solitaires au milieu du maquis de nos péchés et de nos défauts. Eh bien, dans ces moments-là, la repentance, ce n'est pas le remords indéfini. Le remords, c'est quelque chose de négatif qui, nous, comme le serpent, nous plaque, on est plaqué et on rampe sur la terre. Eh bien non, la repentance, c'est vraiment, au milieu du péché, de dire « je suis faible ». Je ne peux rien par moi-même, j'accepte ta houlette, au milieu de ce maquis qu'est mon péché. De même pour nos frères, parfois la petite semence que nous avons semée par notre prière et notre amour ou notre témoignage semble être vraiment étouffée dans un maquis dans leur cœur. Mais, comment dire, ayons confiance, demandons au Seigneur de faire paître sous la houlette ce que nous avons semé. Et cette petite semence qui semble étouffée grandira. Alors continuons avec la suite du texte. Qu'il pâture, donc ce peuple, en Bashan et Galaad, comme au jour d'autrefois. Comme au jour où tu sortis du pays d'Égypte, je lui ferai voir des merveilles. Le Seigneur nous promet que justement, malgré la lenteur apparente de son action, qui est respect des réticences à des libertés, qui est d'abord un travail intérieur, il fera sortir du pays d'Égypte nos frères qui sont esclaves du péché, ou nous-mêmes qui sommes esclaves de nos faiblesses. Alors, au lieu de nous décourager, souvenons-nous de ces paroles. Et le Seigneur va même plus loin. Soyons ambitieux. Ici, le texte dit qu'il pâture en Bashan et Galaad comme au jour d'autrefois. le Seigneur, nous rêvons vraiment de retourner, comment dire, dans un état où nous étions si proches du Seigneur avant d'avoir péché, d'être comme en Bashan et Galaad. Bashan qui veut dire fertile et Galaad qui veut dire fontaine perpétuelle. Donc nous rêvons finalement d'un idéal. Avant c'était si bien, notre péché nous a vraiment éloignés de Dieu. C'est important de nous rendre compte à quel point nous étions bien avant de pécher. C'est ça aussi l'éducation du pardon. C'est pour ça que nous demandons au Seigneur de nous faire paître sous la houlette. Parce que nous nous rendons vraiment compte du désert de notre vie quand nous sommes loin du Seigneur. Eh bien le Seigneur va vraiment faire devenir notre rêve réalité. C'est-à-dire que notre péché, quand le pardon sera pleinement effectif, eh bien nous pâturons comme en Bashan et Galaad. C'est-à-dire que notre relation avec le Seigneur sera vraiment encore plus fertile. Elle nous fera penser à une fontaine perpétuelle. De même, oui, vraiment pour nos frères. Le Seigneur va, quand il est librement, quand ils vont se tourner vers lui, alors librement ils verront comme il est bon d'être avec le Seigneur. Et ils seront comme en Bashan et Galaad, cette situation idéale. Alors tout ceci, je le dis pour que vraiment nous comprenions bien comment le Seigneur travaille. Que c'est l'amour qui est la stratégie du Seigneur. Cet amour qui a pris un visage, Jésus-Christ, et qui s'est pleinement manifesté sur la croix, où il a vraiment porté sur lui tous nos défauts, tous nos péchés, pour que vraiment il les assume pleinement par son amour. Eh bien, cette stratégie, elle paye, elle est tellement efficace. Eh bien, c'est pour ça que quand nous voyons nos frères, nous devons accepter, plutôt que de les juger, de souffrir pour eux, de prier pour eux, de les aimer malgré leurs défauts. De même, nous-mêmes, nous devons accepter le fruit de notre péché, de voir combien nous éloigne de Dieu. Quand nous aurons cette humilité, cet amour, alors le Seigneur nous fera pas paître en Bashan et Galaad. C'est effectivement quand librement nous consentons à nous repentir, ou que librement nous continuons à porter le péché de nos frères dans notre prière et dans notre amour, que vraiment le Seigneur peut faire paître en Bashan et Galaad. Il faut du temps, mais la victoire est tellement plus belle. Les nations regarderont, elles seront couvertes de honte en dépit de toute leur puissance. Elles mettront la main sur la bouche, leurs oreilles seront assourdies. Elles lécheront la poussière comme le serpent, comme les bêtes qui rampent sur la terre. Tremblantes, elles sortiront de leur forteresse vers le Seigneur notre Dieu. Elles seront terrifiées, elles auront peur de toi. Ici, le texte insiste sur la victoire pleine et entière du Seigneur. Oui, parfois nous avons l'impression que notre péché, c'est comme des nations, et qu'elles sont puissantes, que ce sont de véritables forteresses, que jamais nous n'en sortirons. Mais dans ces moments-là, plutôt que de nous décourager, faisons confiance en la miséricorde amoureuse de Dieu, ou son amour miséricordieux, si vous voulez. Tournons-nous vers lui, avec humilité et repentance, et vraiment, laissons-nous façonner par sa grâce. Si nous avons cette attitude humble et repentante, alors vraiment la victoire sera pleine et entière. Et alors la forteresse, elle va trembler, s'écrouler comme un château de cartes. Elle sera terrifiée, elle aura peur du Seigneur. Nos péchés vont fondre comme neige au soleil. De même pour nos frères, ne soyons pas découragés. Certaines choses dans leur cœur, dans leur attitude, nous font croire qu'il y a un obstacle, un mur entre eux et le Seigneur. Mais tout ça va tomber, justement parce que nous avons confiance en la grâce du Seigneur, et nous accompagnons sa grâce par la prière et par l'amour que nous manifestons justement à l'égard de ses frères. Si nous avons cette prière, cet amour pour eux, alors soyons sûrs que les forteresses s'écrouleront et que la victoire sera vraiment pleine et entière, et que tout ce qui faisait obstacle au Seigneur dans leur vie sortira comme terrifié d'eux-mêmes. À quel Dieu te comparer, toi qui ôtes le péché, toi qui passes sur les révoltes? Pour l'amour du reste, ton héritage, loin de s'obstiner dans sa colère, lui, il se plaît à faire grâce. Pardon. De nouveau, il nous manifestera sa miséricorde, il piétinera nos péchés, tu jetteras toutes leurs fautes au fond de la mer, tu accorderas à Jacob ta fidélité et ta grâce à Abraham. C'est ce que tu as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. Ce qui vraiment doit nous encourager dans nos difficultés, c'est de savoir que le Seigneur est ce qu'il est, un Dieu d'amour. Et cet amour, ce n'est pas un amour abstrait, mais un amour qui se manifeste concrètement dans sa miséricorde, dans son éducation et son pardon, comme nous venons de le voir. Eh bien, si nous savons que le Seigneur est comme ça, nous n'avons aucune raison vraiment de nous apitoyer sur nous-mêmes, de désespérer de nous-mêmes. De même pour nos frères, nous savons que le Seigneur les aime et qu'il veut leur manifester sa miséricorde. Que ceci nous encourage donc à prier et aimer plutôt qu'à nous désespérer et juger. Et sachons vraiment que le Seigneur, c'est ce que nous dit ce paragraphe, ne prend pas plaisir à ce que nous souffrions des conséquences de notre péché. Mais c'est parce que justement il respecte notre liberté qu'il veut que librement nous tournions vers lui ou que nous retournions vers lui. C'est pour ça qu'il accepte dans une certaine mesure que nous subissions les conséquences de notre péché, pour nous faire grandir et nous épargner justement des malheurs encore plus grands. C'est ça un véritable Père qui voit plus loin que l'immédiat. Voilà. Alors vraiment, pensons à ce Seigneur qui est le nôtre et vraiment, n'hésitons pas à nous tourner vers lui, car en lui nous avons vraiment un secours. C'est ce que dit le texte, c'est ce que tu as juré à nos pères depuis les jours d'autrefois. C'est aussi un appel à prendre les promesses de la Bible au sérieux, qu'elles deviennent vraiment des appuis pour notre vie. Voilà. Je vous propose maintenant de prier si vous le voulez bien. Je vais vous laisser pour cela un temps de silence où vous allez pouvoir prier à partir de ce commentaire. Ensuite, je me joindrai à vous en priant à haute voix. Et enfin, je vous laisserai un nouveau temps de prière pour vous permettre de faire votre cette prière. Seigneur, nous te remercions, toi notre Père, justement de nous aimer comme un Père, de vouloir notre bien, de nous éduquer avec amour et miséricorde. Alors c'est pour ça, Seigneur, que nous te demandons toujours plus d'être humble et docile et repentant. Oui, Seigneur, fais de nous vraiment des fils humbles, dociles et repentants. Et Seigneur, fais de nous des témoins doux et aimants et priants pour que nos frères se tournent vers toi. Enfin, Seigneur, augmente en nous la foi en ton amour et ta miséricorde. Oui, Seigneur, que nous sachions toujours plus que tu travailles lentement mais sûrement. Toi, qui nous aime et qui nous montre ou qui nous fait miséricorde. J'espère que ce moment passé avec la parole de Dieu en ma compagnie vous a aidé à vous rapprocher du Seigneur. Soyez assurés de ma prière. À bientôt, je l'espère, cher internaute.